Vous écoutez
RMC.
RMC.
Il va falloir qu'il bosse. Je suis déjà content là. Philippe, il a le temps convoqué demain matin à 8h. Et encore, il est gentil. Parce que moi, ça sera demain matin à 6h. Et c'est honteux ce que j'ai mis. Je me réserve parce que je vais exploser.
Putain de merde. Sérieux.
Entraîneur, formateur, écoute l'after. Les joggeurs, les plongeurs, écoute l'after. En vélo, en scooter, j'écoute l'after. Attaquant, défenseur, écoute l'after. Même Rocco, le grand acteur, écoute l'after. Au micro, c'est Fazer. C'est Fazer.
Jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Bonsoir à tous, l'after continue jusqu'à minuit en direct. Comme tous les soirs, l'after est là, l'émission qui dit tout ce que le monde du football pense tout bas. Daniel Ariolo est là, en place.
Et bonsoir salut les Daniel, amis.
Accompagné de Thibaut Leplat. Salut Thibaut.
Camarade, bonsoir.
C'est la semaine Leplat.
C'est la, voilà.
C'est la semaine chemise bleue.
C'est la Leplat pareil, là.
Oui, c'est la semaine Leplat. Voilà.
Avant le retour à Nizza Bella.
Voilà, et après le re-retour, fin de la semaine de juin.
Hier, on a quand même parlé natation. Le mec s'appelle Thibaut Leplat, il a rien dit.
Non. Tu peux parler restauration aussi, le plat, je dis rien.
Non, il n'a pas compris le
plat du jour.
Non, c'est vrai,
le plat, natation, le plat, non.
Le plat. Ah, ok, plat. D'accord. Très bien, très bien. Ah oui.
Football, le plat du
beaucoup,
pied.
Beaucoup mieux, beaucoup mieux le plat du jour ou le plat du pied. Ouais. Jamais le plat.
Des bons noms de chronique.
Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Il y a du potentiel. Alors, l'événement ce soir dans l'After, les gars, c'est le mercato qui s'emballe.
C'est pas la Conference League finale.
Non. Alors en fait j'ai plusieurs événements parce que jusqu'à il y a une heure c'était le mercato qui s'emballe. Mais là on a découvert la dernière interview de Messi au Mundo Deportivo. Je pense qu'elle va faire du bruit celle-là. On va vous détailler ce qu'il a dit dans,
zéro pour la FIO
dans quelques instants. Non, c'est la mi-temps, le but a été refusé. Il y a 0-0 entre Fiorentina et West Ham. C'est la mi-temps dans la finale de Conference League. On en parlera également tout à l'heure avec Julien Laurence et Johan Crochet. Et puis tout à l'heure à 23h, notre deuxième et dernier débat sur le foot en Arabie Saoudite. Jean-Baptiste Guégan, spécialiste de la question, sera avec nous. On verra si c'est la même stratégie que les Qataris, les Émiratis, qu'est-ce qu'ils veulent faire, comment on vit le foot sur place. Enfin voilà, toutes ces choses-là intéressante, évidemment, en marge de l'arrivée de Benzema, qui, je vous le signale, est en Arabie Saoudite physiquement. Ça y est, il est arrivé, évidemment, en jet privé. Hein, il n'était pas au siège 45K de Saudian Airlines. Tapis rouge, la totale. On vous racontera ça tout à l'heure. Et puis, avec Yohann Crochet et Julien Laurence, deux autres sujets très importants. Le fameux chantage de l'UEFA envers la Juve pour quitter la Super League. Yohann vous racontera ça dans le détail. Et puis, les infos du jour concernant la vente de Manchester United, ça bouge. L'homme d'affaires qatari qui veut racheter le club met la pression sur les Glazers. Là aussi, Julien, tout à l'heure, nous racontera. Donc mi-temps en Conference League 0-0, mais Roland Garros est tout de même en cours. Et c'est pas Eric Salio ce soir, les gars.
Ah bon?
Bah, il a droit à un jour de repos, je pense.
Bah là, en l'occurrence, c'était repos, il a failli se coucher très très tôt, même si là, le troisième set peut-être bouger un peu.
Et c'est Julien Taxis qui est là, bonsoir. Ah,
bonsoir les amis, ce n'est pas Eric Salio, effectivement, qui est en repos. 4 jeux à 1 pour Holger Rune, c'est un petit peu en train de tourner. Le Danois a fait le break, est en train de revenir. Il a perdu sèchement les deux premiers sets, 6-1, 6-2. Ce qui est intéressant, c'est que Rune, déjà, joue beaucoup mieux, fait moins de fautes directes et essaye un petit peu de rentrer dans la tête de Casper Ruud. Il se sert du public, il serre le point après chaque point. On entendait Holger entonné par le public du court central qui a pas envie de rentrer, aller à 22-22-30 à la maison. Donc ça tourne un petit peu. Holger Rune en tous les cas est en tête avec un break en poche dans cette troisième manche.
Merci, à tout à l'heure. Lionel Messi se confie sur son mal-être à Paris. Je n'étais pas heureux, dit-il.
Et il a donné une interview au Mundo Deportivo.
Alors vous allez me dire, certains vont dire ah bon, on s'en était rendu compte, mais non, bon.
Parce qu'en France, les interviews, il en donnait pas, quoi. Ça l'intéresse pas.
Il en avait pas beaucoup en Espagne non plus, mais bon, là, il. Enfin, vas-y, continue.
Bon, je pense qu'il fallait qu'il explique aussi pourquoi il va pas au Barça. Mundo Deportivo, c'est le journal catalan.
Non, il va pas au Barça. Non, mais je sais pas. Tout le monde disait il va aller au Barça, mais comme il y avait pas l'oseille, il y va pas, évidemment. On va peut-être découvrir comme ici, peut-être pas un ange hein, quand même. On va peut-être découvrir la personnalité de ce gars-là.
Il a dit des choses intéressantes quand même dans cette interview, je trouve.
Alors, je vous livre quelques.
Continuons, après on va raconter deux, trois.
Je vous livre quelques infos parce que je pense que les supporters du PSG vont apprécier. Il dit la vérité, c'est que la première année a été très difficile. Je l'avais déjà expliqué. La deuxième année, les six premiers mois, je me suis senti très très bien. Donc là, on parle avant la Coupe du Monde.
Oui, bah oui. Quand il
très à l'aise dans le club, dans la ville, dans ma famille. Après, il y a eu la Coupe du Monde, et ça a été pour toutes les équipes en général, avec une compétition aussi importante, difficile. Je pense que ça a conditionné la saison. J'espérais terminer d'une autre manière, mais ces deux années ont globalement été difficiles pour moi en général, et elles sont maintenant derrière moi. Je ne me suis pas amusé, dit-il. Dit-il à Paris. Je n'étais pas heureux, dit Lionel Messi. Alors bon, évidemment, quand on met en rapport ça avec la starification du gars, la façon dont il a été accueilli, le salaire, les conditions de vie, tu te dis ah bon, t'as pas été heureux. Bon, enfin,
on le voyait, non. Alors, on l'a vu.
C'est pas quelque chose qu'on ignorait. La première année, pas bonne, on l'avait dit dans l'after. Les mois précédant la Coupe du Monde, pour se préparer à cette échéance, on en avait parlé également. Le fait qu'il n'en ait jamais rien eu à cirer de Paris, du PSG, qu'il n'était pas bien ici, on l'avait dit également. Je pense à tous ces supporters du PSG, les fameux PSGX qui se sont fait abuser pendant 2 ans et qui ont cru. Je pense que les vrais, eux, n'y ont pas cru.
Mais est-ce qu'il s'est foutu de la gueule des gens, je veux dire, faut être clair.
Oui, évidemment, mais ça, moi j'en ai toujours été convaincu. D'un point de vue du business, il est clair que ça l'a servi lui et ça a également servi le PSG. Mais il va y avoir une sorte d'aller-retour. Bon, il a permis des revenus supplémentaires au club. Pour ce qui est de tout ce qui est réseaux sociaux, machin, on a les chiffres déjà de la chute de ce côté-là. Le PSG va beaucoup perdre de ce qu'il avait gagné sur les 2 dernières années grâce à lui. On va peut-être revenir à quelque chose qui ressemble plus à du football plutôt qu'à tout le business qui peut y avoir autour, même si on sait que c'est absolument essentiel, oui. Mais autour de Messi, ça n'était que ça, parce que footballistiquement, il n'a rien apporté. Sa venue a été, de mon point de vue, en termes footballistiques, inutile au Paris Saint-Germain. Oui, ouais. Ça n'a pas fait progresser le club. Lui n'a fait progresser personne. Lui n'a apporté personne parce qu'il n'a pas partagé son talent. Il n'a pas donné. Moi, je répète que c'est un type que footballistiquement, et je le dirai toujours, j'adore et je mets au-dessus de tout. Mais je le distingue, lui, du PSG. Pour moi, ils n'ont jamais collé. Il n'y a jamais eu de mariage. Il n'y a jamais eu d'amour, d'affection. Il n'a jamais salué le public. Il est venu pour ses intérêts. Parce que le Barça ne pouvait plus le payer.
Dans l'interview, il dit que ça a été un déchirement de partir de Barcelone.
Oui.
Que ça a été très difficile pour lui, pour sa famille. Et qu'effectivement, c'est un peu quoi là.
Mais Thibaut, c'est un déchirement parce que le Barça ne pouvait plus le payer. Parce que le PSG ne pouvait plus le payer.
Parce que le Barça pouvait plus le payer.
Et le PSG était le seul club qui pouvait le payer. Et c'est pour ça qu'il est venu. Et quand on m'a raconté pendant des semaines qu'il allait aller au Barça, qu'il allait retourner, je crois que Thibaut, tu devais être là. On a bien. On t'a déjà, même toi, très souvent raconté l'histoire des storytelling espagnols. Je pense que Laporta s'en est servi pour entretenir une flamme.
Et même dans l'interview,
je le voyais pas revenir, moi, comme
il regardait les rumeurs dans la presse.
C'est mytho, tout ça.
Et il disait que lui-même, il savait pas, et que il voulait pas dire à ses enfants, lisaient les rumeurs dans la presse, et que pour pas leur donner de fausses joies, parce que lui, il voulait absolument retourner à Barcelone, lui, il savait pas, et plutôt, il se doutait que ça allait être compliqué, mais qu'il voulait pas le démentir, parce qu'il savait pas.
Tebas, on était ensemble. Tebas,
oui, mais lui-même le dit.
Il ne voyait même pas comment il pouvait revenir.
Lui-même le dit.
On nous a raconté des histoires.
C'est du côté du Barça. Après que lui ait envie de retourner à Barcelone, que sa famille.
Il pouvait y aller gratos, s'il aime tant la ville.
Oui, mais alors il y a les problèmes légaux là-dessus. Tu ne peux pas jouer gratuitement. Il y a toute une histoire.
Non, non, non. Excusez-moi, mais outre les questions de foot. Il y a quand même, enfin, je sais pas, moi, ce qui me choque, en fait, c'est qu'il y a une espèce de déconnexion avec la vie réelle de ce type.
Bien sûr.
Redescends sur Terre,
mais il faut donner tous les éléments dans l'interview. Parce que dans l'interview, après.
Il était milliardaire, détends-toi.
Il dit.
Tu t'es pas amusé.
Il avait une possibilité de rester, mais pour rester, il fallait qu'il baisse le salaire de beaucoup de joueurs et qu'il se sépare de beaucoup de joueurs. Et pour lui, il dit, dans cette situation-là, j'ai préféré prendre les devants et décider tout de suite de pas venir plutôt que de se pousser dans cette situation-là. Et donc, je te dis ce qu'il a dit ce soir. Il s'explique là-dessus. Et on peut l'entendre, ça. On peut l'entendre. Moi, je suis d'accord avec toi sur son choix Paris Saint-Germain. De toute façon, il est allé pour de mauvaises raisons et Paris l'a recruté pour de mauvaises raisons. Donc, ça pouvait pas bien se passer. Là, en l'occurrence, le fait qu'il se finalement se décante pour l'Inter Miami, pour des décisions familiales, pour quasiment le dixième de ce qu'on lui proposait en Arabie Saoudite, il explique le contrat, il explique les opportunités d'avenir, que il faut le dire, dans le deal, il y a aussi la possibilité pour lui ensuite d'acheter un club en MLS. Il a des parts dans les droits télé et que lui veut s'inscrire dans une vie familiale. Oui, mais là, en l'occurrence, jusqu'à présent, c'était plutôt des choix d'oseille, etc., des choix pas réfléchis.
Il y a un choix d'après-carrière, il y a plusieurs jours
qu'on disait que la femme de Messi, elle ne voulait pas aller en Arabie Saoudite.
Bien sûr.
Quand le père, lui, voulait y aller. Et qu'il a fallu qu'il se décide.
Le père, il voulait y aller pour l'oseille.
Évidemment.
Principalement, il a toujours voulu se gazer d'oseille.
Et elle voulait pas y aller, on s'imagine aussi pourquoi. Donc, ils ont choisi. C'est un choix de vie qu'ils ont fait.
Excusez-moi, mais tout ça est quand même ultra gênant.
Autant le choix sur le Paris Saint-Germain me semble gênant, le choix sur l'Inter Miami pour lui me semble un choix beaucoup plus intelligent pour lui dans sa réflexion. Voilà.
Après, dans sa réflexion et dans son choix, je suis d'accord avec toi. Voilà. Mais et si on disait un truc un peu tout bête, que Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar, je vous laisserai compléter la liste avec qui vous voulez. J'ai des éléments sur les trois premiers, pas totalement sur les autres, j'attendrai un petit peu. Si c'était pas des types bien, si c'était des types extrêmement décevants en termes de valeur humaine.
Alors là, il faut distinguer l'œuvre de l'artiste.
Oui, exactement.
À ce moment-là, ce que j'essaie de faire depuis tout à l'heure.
Est-ce que c'est possible?
Parce que moi, je me souviens d'un membre de l'After qui s'est beaucoup fait cracher dessus ces dernières années, Fred Hervel, qui disait des choses sur Neymar, qui.
Et sur Messi.
J'allais y venir. Sur Neymar, et on a constaté que ce qu'il disait était vrai. Il disait également des choses sur Messi, et moi, on m'a raconté des choses, alors tardivement, parce que c'est évidemment quand il part que les langues se délient, mais sur ce qu'il faisait, par exemple, à l'entraînement, sur ce qu'il faisait dans le club, sur la façon dont il a gourouté Galtier, qui n'osait rien lui dire. Il a mangé l'entraîneur, il déplaçait les séances d'entraînement, il faisait ce qu'il avait envie de faire. Il en avait à peu près rien à cirer de rien ni de personne dans le club. Fondamentalement, il se comportait mal dans le club. Lionel Messi, oui, je maintiens, j'assume totalement ce que je suis en train de dire. On m'a raconté des choses assez fortes à ce sujet. J'aurais bien aimé qu'on me les raconte plus tôt, même s'il y avait des éléments qui pouvaient donner à penser que, évidemment, c'était pas l'amour fou entre lui et le club. Ça, on l'avait deviné, mais pour ce qui est de son comportement à l'intérieur, voilà. Neymar le voit comme une sorte d'idole. C'est à peu près la seule personne que Neymar respecte, mais il le respecte footballistiquement. Comme il le voit comme quelqu'un de plus fort, il le respecte. Et c'est à peu près tout ce qui s'est passé dans ce vestiaire qu'il a contribué à rendre très mauvais, finalement. Donc, il s'en va. Bon vent à lui, l'Inter Miami. Sa carrière, pour moi, est terminée. Maintenant, il va faire autre chose et ça n'enlèvera rien à ses qualités footballistiques. Mais humainement,
malheureux à Paris, donc
lui, Cristiano Ronaldo, Neymar, sont des gens. Honnêtement, je n'aime pas. Ils ne me feront jamais vibrer.
Ajoute un autre élément au dossier, c'est ce qu'on a vu de lui au Qatar. Et on y était. Tu voyais un mec totalement différent. Tu voyais un investissement différent. Bref.
Quand il s'agit de jouer pour l'Argentine de réaliser le rêve de sa vie, ça a été un autre problème.
Moi, je vais faire l'avocat de Messi ce soir là-dessus. Je le fais assez peu parce que je trouve que c'est son passage à Paris est plutôt raté. Même si sportivement,
c'est raté aussi.
Il a plus de matchs que Neymar quand même. En deux saisons, je pense qu'il a joué quasiment autant que Neymar sur quatre saisons. Donc, en termes d'investissement, il était quand même là sur la quasi-totalité de la saison. Il fait 16 passes décisives, 16 buts, c'est pas mal. Mais surtout, de toute façon, au départ, c'est une mauvaise décision pour lui d'aller à Paris, de quitter Barcelone comme ça. Et c'est une mauvaise décision de Paris de le recruter pour s'imaginer que de réclamer ou de récupérer quelques miettes de la notoriété de Messi et récupérer quelques followers sur Instagram. Je trouve que c'est une stratégie qui est absolument pas une stratégie à long terme et que maintenant effectivement se retourner contre lui, lui reprocher son comportement. Il y a un contexte qui fait que de toute façon il y a personne qui est ici pour jouer au football à part quelques joueurs. Il y a pas grand monde qui est là pour jouer au football. Donc à partir du moment où ton club respire ça, transpire cette idée-là, il faut pas s'attendre d'avoir des joueurs qui aient des comportements exemplaires et que déjà le fait que Messi soit présent sur la majorité de la saison et qu'il soit quand même qu'il a un rendement quand même relativement acceptable, c'est déjà beaucoup par rapport à ce qu'on pouvait attendre d'autres joueurs comme Neymar. Effectivement, Messi marche, mais déjà à Barcelone, Messi sportivement c'est une déception parce qu'il a pas emporté avec lui l'équipe. Qu'il se soit motivé avec l'Argentine, soit. C'est à la limite, pourquoi pas, il a fait si bon mois à Paris, pourquoi pas, mais on peut comprendre qu'il se soit plus investi dans le projet argentin et qu'effectivement l'argent n'est pas ce qui te fait courir, en fait c'est pas ce qui te fait courir le plus vite en tout cas.
Dans un instant on continue le débat avec Frédéric au 32-16. Il est supporter du Barça, parce que si l'interview a énervé à Paris, elle a peut-être aussi énervé à Barcelone, parce qu'en gros il dit moi je serais bien revenu mais finalement non, donc sous-entendu on a peut-être pas tout fait pour que je revienne, et puis de toute façon c'est peut-être quand même, pardon Thibaut, l'oseille qui a décidé de tout ça. On continue le débat dans quelques instants. Et après, on passera au mercato parce qu'il y a beaucoup d'infos à vous donner, de débats qui en découlent dans quelques minutes. Et puis la finale de la Conference League, la deuxième mi-temps a repris entre la Fiorentina et West Ham. Aurélien Tiercin est là, bonsoir.
Ouais, salut Gilbert, bonsoir à tous. La 53e minute, c'est vraiment pas terrible. C'est peut-être même pire que la finale de Ligue Europa. 0-0, c'est une baston. Il y a un joueur à terre avec du sang qui coule du nez ou du crâne, malheureusement. Il y a eu un jet de gobelet en plastique en première période sur le capitaine de la Fiorentina, Biraghi. Et à part ça, il se passe vraiment pas grand chose. Carton jaune pour Naïef Aguerd, d'ailleurs défenseur de West Ham, ancien de Rennes. 0-0 malheureusement après 54 minutes.
A tout de suite dans l'after.
RMC jusqu'à minuit, l'after foot.
Gilbert Bribois.
Daniel Riolo est là, Thibault Lapla est là, pas mal de messages sur Messi et son interview donc du soir, avant d'accueillir Frédéric, je vous en lis deux, trois. Thierry qui nous dit, oui bah c'est comme les gens normaux, tu changes d'entreprise, tu t'y plais pas, bah c'est compliqué de trouver la motivation, dit-il. Et puis il y a pas mal de messages qui sont très durs envers Messi. Tiens, je vous en lis un, Franck qui nous dit, on n'oublie pas, Messi a fait virer Ibrahimovic alors que celui-ci était prêt à faire des efforts et à s'effacer, il parle au Barça, hein. Il a fait virer Icardi de la sélection pour une histoire privée qui le concerne pas. Il a imposé des personnes à Barcelone, comme Tata Martino, comme son garde du corps gardien remplaçant Pinto. Je l'avais oublié celui-là.
Non, mais ça, bon. ça c'est tout ça est vrai. Ces grandes années Barça, que le gars se comporte comme un mini dictateur. À la limite, j'ai pas énorme. J'ai pas.
Quelle est la différence avec Mbappé?
C'est ce que j'allais dire. J'ai pas vraiment de problème avec ça, tant que le gars est le roi du monde et que le club, non seulement il place le club tout en haut de la hiérarchie mondiale, il le fait gagner, il assume à peu près tout, c'est le boss, c'est le crack, c'est le meilleur, il enquille les ballons d'or. Le Barça, il fait gagner un fric monstrueux au Barça, il fait gagner des titres au club. Moi, je veux bien. Je veux bien accepter. Il n'y a pas de problème. C'est totalement différent avec le PSG. Ça n'a rien à voir avec le PSG. Ça n'a rien à voir avec le PSG. Il est venu s'essuyer les pieds et préparer sa Coupe du Monde. C'est ça la grande différence.
Tu sais, c'est un peu comme ça qu'est vu le Paris Saint-Germain, en particulier en Espagne, mais ben à l'étranger, voilà. C'est pas du tout vu comme un club de football. C'est vu comme une marque de fringues, à la limite. C'est vu comme un club qui est dépensier. C'est pas vraiment vu comme un club de football, pardon de le dire. C'est un peu de sa faute aussi. Donc quand tu es Léo Messi, que tu vas au Paris Saint-Germain, alors que tu sors de Barcelone et les sélections argentines, bah t'y vas pas vraiment pour le football en Ligue 1, quoi. Ouais. Donc je veux pas absolument le défendre, mais c'est je veux dire, le club a une énorme part de responsabilité aussi, Daniel, là-dedans. On peut pas juste charger Messi, tu vois.
Voilà. Tu penses que j'ai jamais exonéré le club de sa responsabilité dans le domaine.
Si
le PSG s'est laissé faire comme ils se sont laissés faire par Messi qui est arrivé et qui s'est immédiatement servi du club comme d'un paillasson.
Bien sûr.
Évidemment que je veux pas défendre le club, ça je l'ai toujours dit. J'ai toujours dit, bien sûr.
Les gars, s'il vous plaît, avant d'accueillir dans quelques instants Antoine Latran, qui connaît très bien le club de Miami, parce qu'il a
le frère de Saint-Jean,
peut-être.
Jean de Latran.
Il sera avec nous dans quelques instants pour parler de Miami. Mais d'abord, un petit tour par Barcelone avec Frédéric, qui est supporter du Barça. Bonsoir, Frédéric.
Ouais, bonsoir à tous. Bonsoir, Daniel. Bon, je suis un grand fan de toi. Moi, je te demande juste un truc, c'est laisse parler un peu plus les gens. Tu monopolises trop.
Bon, d'accord.
Je t'aime bien, mais tais-toi, s'il te plaît.
Frédéric, t'as pas tort.
Écoutez, moi, je vais vous dire un truc. Moi, je suis supporter du Barça depuis l'âge de 5 ans. Donc, ça fait grosso modo plus d'une trentaine d'années que je suis le Barça. Je suis pas un footix depuis 2009, depuis l'époque de Guardiola. Le Barça, je l'ai dans mes veines. Je suis catalan, il n'y a pas de problème. C'est la meilleure des nouvelles, je crois, de ces dernières semaines, c'est que Messi ne revient pas. Je n'en veux plus. Et je croyais pas, je suis péniste. Je fais partie d'une peña, d'un club de supporters. Croyez pas que tous les supporters du Barça, à 99%, souhaitait le retour de Messi. Messi, il est parti pour de l'argent. Messi, il est parti pour un projet financier. Messi, il aurait pu rester au Barça. Alors, peut-être pas gratuitement, parce que la loi ne l'autorise pas, mais il aurait pu revoir ses conditions salariales à la baisse et rester au Barça pour renvoyer tout ce que le Barça lui avait donné pendant de nombreuses années et qu'il a mis là où il a mis. S'il a voulu partir à Paris, c'est pour de l'argent. Maintenant, il y est parti, eh ben, qu'il en parte, mais qu'il ne revienne plus. Quand tu as trompé ta femme, avec qui tu es resté pendant 15 ou 20 ans, ne reviens pas une fois que tu t'es rendu compte que tu avais fait une erreur. Donc, qu'il ne revienne pas, eh ben, tant mieux. Qu'il aille à Inter Miami, qu'il prenne encore plus d'argent que ce qu'il a pris, tant mieux pour lui. Moi, je souhaitais qu'une chose, c'est qu'il ne revienne pas. Parce que s'il revenait, même malgré le fait que je sois supporter depuis 35 ans, je n'aurais plus jamais été au stade. Je ne sentais plus les écharpes, je ne voulais plus rien
savoir. Parce que tu t'es senti trahi, en fait, c'est ça?
Mais oui, il nous a trahi. Mais il nous a pas trahi pour un projet sportif. S'il était parti à City, dans un club qui avait un projet sportif, outre de l'argent, bien sûr, il n'allait pas jouer pour le SMIG. On l'aurait compris. Mais là, quand on va à Paris, ben, je veux dire, les dernières années, c'est quoi le résultat de ceux qui sont partis à Paris? Et ben, ils se sont éteints sportivement, les plus grands joueurs. Et Daniel, tu es témoin. Toi-même, tu disais qu'il y a des grands joueurs qui sont arrivés à Paris. Eh ben, arrivés à Paris, se sont éteints pour toutes les étoiles que représente Paris au niveau financier et autres. Mais s'il est arrivé à Paris pour de l'argent. Donc, c'est ça qu'on n'accepte pas. C'est qu'il n'est pas parti pour un projet sportif, il est parti pour un projet financier.
Je pense qu'il s'est rendu compte qu'il s'est trompé, qu'il a pris la mauvaise décision et c'est la raison pour laquelle...
La vie de Fred est claire. Voilà, les gars, faut qu'on aille au match parce qu'il y a un pénalty en finale de Conference League, Aurélien.
Oui, après une heure de jeu, pénalty confirmé pour West Ham après un contrôle de la poitrine de Jarrod Bowen, la main de Cristiano Biraghi, le capitaine de la Fiorentina. Il est dans sa course, il a des gestes, on va dire, logiques, normaux pour un joueur qui est en train de courir, mais il enlève clairement le ballon de la trajectoire de Jarrod Bowen et l'arbitre Carlos Del Cerro Grande, arbitre espagnol, est allé consulter l'assistance vidéo. Il a été appelé par ses assistants et il est convaincu désormais devant les images qu'il y a pénalty pour les Anglais de West Ham. Alors c'est pas encore tiré parce qu'il y a pas mal de changements, notamment la sortie de Kurt Zouma côté West Ham, le défenseur remplacé par Thilo Kehrer, l'ancien du Paris Saint-Germain. Et du côté de la Fiorentina, c'est Ricardo Saponara, le meneur de jeu de la Fiorentina, qui remplace Christian Kouamé. Ça va se tirer dans quelques secondes. Je sais pas si on reste ensemble, Gilbert, ou si tu reviens.
Oui, ça permet. Non,
ça va y aller.
Allez, à toi.
Allez, ça va y aller avec Saïd Benrahma, l'international algérien de West Ham. 29 minutes encore à jouer, un match où on s'ennuie énormément. Ça peut débloquer la situation. David Moyes, l'entraîneur de West Ham, très concentré évidemment. Ça peut tout débloquer. Saïd Benrahma face à Terracciano, l'international algérien qui s'élance et qui la met au fond. C'est bon pour West Ham, 1-0. Les Anglais qui peuvent exulter. Ils sont quasiment 15 000 dans un stade de 20 000 places et ça fait énormément de bien pour West Ham qui court après un premier titre depuis 1980. C'est très chaud à l'Eden Arena de Prague. 1-0 pour West Ham face à la Fiorentina. C'est pas forcément mérité. Le pénalty de Benrahma, 28 minutes encore à jouer.
Très bien. Je vous signale quand même que Areola, qui est gardien de West Ham, et Thilo Kehrer vont peut-être gagner une Coupe d'Europe avant le PSG. Pour revenir sur notre débat du moment.
Et justement, dans l'équipe de West Ham, t'as au moins 4 ou 5 joueurs qui sont passés par la Ligue 1. Et qui sont quand même capables de presque gagner une Coupe d'Europe. Donc c'est peut-être possible quand même d'arriver à faire ça.
Bien sûr. Alors l'Inter Miami, maintenant entrons un peu dans les détails. On a donc Antoine Latran avec nous. Bonsoir Antoine.
Bonsoir messieurs, merci pour l'invitation.
Bah, on est ravis de t'avoir.
Merci pour la basilique.
T'étais déjà passé dans l'after. Je rappelle ton compte Twitter, c'est @culturesoccer. C'est pour ceux qui s'intéressent à la MLS notamment. N'hésitez pas à vous abonner au compte d'Antoine. On a un peu regardé l'Inter Miami. Bon... C'est quand même une équipe, comment dirais-je
On connaît personne. Hein,
un peu éclaté quand même. Je veux dire.
Quentin Jean, on connaît personne.
Oui. Voilà, mettez du respect sur le nom de Quentin Jean déjà. Et ensuite, c'est une équipe qui passe un mauvais moment, on va dire. Il y a Phil Neville, l'entraîneur, qui s'est fait virer il y a à peine une semaine ou deux. C'est pas la meilleure passe du club. Le club, en plus, c'est historiquement un club qui est arrivé en MLS en 2018. Et depuis, ça a été un peu la catastrophe. Ils se sont même fait sanctionner par la MLS pour avoir triché sur les règles salariales en essayant de cacher le salaire de Blaise Matuidi. Clairement, c'est pas le meilleur club de MLS, mais je pense pas que Messi vienne là parce que il allait jouer les hauts niveaux en MLS.
Bon, alors oui, parce qu'on explique qu'outre un salaire, il va avoir des parts dans le club et en fait, il y a un développement de business qui lui a été proposé.
C'est ça, la MLS a des règles salariales assez strictes. Mais le commissaire de la MLS l'avait dit en mars, ils sont prêts à tout pour avoir Lionel Messi parce qu'ils savent que c'est une époque charnière pour la MLS. Il y a un nouveau deal avec Apple TV qui vient d'être signé. Il y a la Coupe du Monde qui arrive aux États-Unis dans quelques années.
Ça va faire rêver Vincent Labrune.
C'est vraiment le bon moment pour ça. Et donc le deal, il est structuré autour de trois trucs, au-delà du salaire qui doit être quand même assez haut. Un, il prend des parts sur les nouveaux abonnés du deal avec Apple TV, qui auraient souscrit à l'abonnement.
Ah, il touche directement sur les abonnés à Apple TV. C'est énorme.
En gros, il toucherait une centaine de parts par rapport à l'augmentation des diffusions et des audiences sur le site à suite de sa signature. Ensuite, en deuxième point, il prend des parts sur tout ce que vendra Adidas sur son nom et à Inter Miami. Encore une fois, c'est des choses qu'ont rapporté les médias américains, notamment The Athletic. Donc rien d'officiel, mais globalement, sur les ventes de maillots, il va toucher un certain pourcentage. Et le troisième point, qui est aussi très intéressant, c'est comme Beckham, à l'époque où il a signé au LA Galaxy, Lionel Messi pourra avoir des parts dans une équipe de MLS. Il n'est pas spécifié laquelle. On ne sait pas si ça sera Miami. Ça se trouve, il ira se taper un pif aux côtés de Salt Lake City ou Cincinnati. Mais il pourra investir dans l'équipe qu'il veut à la fin de son contrat avec Miami. Parce que je rappelle que c'est une ligue fermée, la MLS. Donc la ligue contrôle un petit peu qui veut avoir quel club dans MLS.
Très bien. Bon. Bah c'est non intéressant.
Ça, c'est intelligent.
Je vous avoue que c'est effectivement intéressant dans une discussion, mais honnêtement, je me fous alors complètement de savoir ce que va faire Messi maintenant. Pour moi, sa carrière, c'est fini. C'est le gars qui nous a fait rêver par ce qu'il a fait sur le terrain, ses performances. Mais alors, son business en MLS, là, je vous avoue que je m'en cogne total.
Mais Corentin Jean, il va jouer avec Messi, dis donc.
Ah bah, Corentin Jean, il va faire. Il était titulaire, Corentin Jean.
Il était un petit peu titulaire, surtout cette saison.
Ah, t'imagines l'association Messi-Jean?
Ah, c'est si je franchement... peux me permettre.
Oui, bien sûr.
Jean-Messi.
Il peut avoir un réel impact dans le sens où il y a des joueurs avant qui sont venus et qui ont complètement raté leur passage en MLS. Je pense à Andrea Pirlo, à Steven Gerrard, qui ne sont vraiment pas restés dans les annales de la Ligue. Mais il y en a certains qui ont vraiment marqué l'histoire du foot pour ce continent, où, enfin surtout ce pays, les États-Unis et un peu le Canada, qui est vraiment en train d'exploser. Les audiences montent petit à petit. Les gens qui regardent la Coupe du Monde sous la sélection, le foot européen, ça explose. Et il y a des gars comme Pelé dans les années 70 ou un Beckham dans les années 2000 qui ont fait gagner leur club et qui ont propulsé les audiences et l'affluence. Il y a toute une génération de mecs aux États-Unis qui ont maintenant 50-60 ans qui ont commencé à suivre le foot parce qu'il y avait Pelé ici. Donc peut-être que pour un Européen, ouais, on s'en fout de ce qu'il fait Messi aux États-Unis, mais ça va engrainer toute une génération de jeunes Américains ou de jeunes Latino-Américains qui suivaient un peu le foot européen mais pas nord-américain et qui soudainement va se mettre à suivre la MLS parce qu'une fois par an, il y a Messi qui passe dans
mais sa vie. Mais je t'avoue que de la même façon, le développement du foot aux États-Unis, savoir s'il va faire gagner des licenciés et tout ça, je t'avoue que ça m'intéresse très peu. Mais je dis pas ça pour toi, ne m'en veux pas. Hein, c'est peut-être bien pour la MLS. Hein. Je connais l'histoire de Pelé là-bas, ça a donné un doc absolument magnifique dont on parle très souvent.
Au but de la Fiorentina, dites donc, égalisation des Italiens, Aurélien.
Ah, il est magnifique, le but de Giacomo Bonaventura en partout à 24 minutes de la fin du match. Petit contrôle du pied gauche, le ballon arrive de la droite par Dodo, le latéral brésilien. Contrôle du gauche enchaîné avec la demi-volée du droit. Ça vient finir dans le petit filet d'Alphonse Areola qui n'est pas encore extraordinaire. Sur le coup, il avait déjà été moyen demi-finale contre la Zalatma.
Il a déjà été extraordinaire.
Et, alors, c'est pas moi de le dire en tout cas, sur les demi-finales et la finale.
Justement, son problème, c'est d'être un gardien ordinaire.
C'est moyen et ça fait un partout en tout cas. Tout est relancé. Voilà, le match est parti. Après une grosse heure de jeu, il y a un partout désormais en quelques minutes. Après cette frappe de Giacomo Bonaventura, ancien international italien de 33 ans, qui vit une bonne période là. Un partout donc entre West Ham et la Fiorentina.
Un but à la Denis Hébert. Finalement, peut-être pas gagné de Coupe d'Europe pour le PSG. On va voir.
Mais sur le fait qu'on s'en fout du football américain, je suis pas totalement d'accord.
On va conclure là-dessus.
La Coupe du Monde 2026.
Non, j'ai dit jeu.
Oui, d'accord. Bah, justement, moi, je
pour moi, ça m'intéresse. Moi, je suis moi, loin, si, mais je suis oui, ce qui se passe.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est le développement du football. Et il y a quand même deux choses qui sont un peu une énigme aux États-Unis où le soccer, ça fait quand même longtemps qu'on entend parler et que la MLS essaie de se développer. Déjà, la Coupe du Monde 94, c'était le gros sujet. S'il faut développer il y a les années 70, la première période, la deuxième période dans les années 90. Maintenant, ça prend encore une nouvelle forme. Et là, on voit que peut-être, effectivement, il commence à avoir un vrai public avec des audiences et le football féminin aussi extrêmement suivi aux États-Unis, le football universitaire aussi. Et donc, ça donne quand même une perspective que je vais mettre un peu en parallèle avec ce qui se passe en Arabie Saoudite, dans le Golfe. C'est-à-dire qu'en réalité, et peut-être qu'on en parlera après avec Jean-Baptiste, mais il y a les Anglo-Saxons d'un côté qui se développent, la Première Ligue, le continent nord-américain, et de l'autre côté le golf, et au milieu l'Europe se retrouve un peu pris en tenaille et a du mal, se divise sur plein de sujets. Et là, on voit que ça se structure tout autour. On voit les investissements en Europe, beaucoup d'Américains. On voit aussi les investissements.
Ça c'est beaucoup plus intéressant. Ce sens-là, et c'est là que l'Europe va devoir réagir.
Et c'est pour ça qu'avoir
et certainement des pas joueurs, avec Seferin à sa tête.
Des joueurs comme Messi qui commencent à prendre du pouvoir à l'intérieur de ses clubs.
Là, Messi, il a le choix entre le golf et les Anglo-Saxons.
À l'image des athlètes qui investissent dans les franchises MLS, je pense à Serena Williams ou à LeBron James, ou je pense à beaucoup d'athlètes qui, grâce aux moyens qu'ils ont levés dans leur carrière, deviennent des acteurs politiques du sport aussi à travers la politique, à travers l'argent, mais qui leur permet d'avoir de l'influence dans l'évolution de leur sport.
Et je pense que ça. Il y a une grosse différence avec l'Arabie Saoudite. Ouais.
Évidemment, j'imagine qu'il y a des différences.
L'Arabie Saoudite, comme la Chine il y a quelques années, c'est vraiment soudainement un changement de stratégie complet. Or, la MLS, elle approche bientôt ses 30 ans. Et il y a eu Djurkaeff au début des années 2000, et il y a eu des Carlos Valderrama. Ensuite, il y a eu des Beckham. Ensuite, il y a eu des Ibra. Là, il y a des Messi, mais c'est une évolution croissante. Ils ont compris qu'il ne fallait pas, avec Pelé dans les années 70, ils ont compris qu'il ne fallait pas mettre des montagnes d'argent d'un coup sans avoir un vrai projet sportif. Et aujourd'hui, quasiment toutes les franchises ont leur propre stade de soccer. Toutes les franchises ont des systèmes de formation qui marchent très bien. Ils commencent à exporter beaucoup de joueurs en Europe. Donc, c'est une évolution croissante qui est intelligente et construite.
T'as une idée de la pratique du soccer aux États-Unis, ça représente combien en termes de proportion par rapport aux autres sports? Est-ce que ça a progressé?
J'ai pas les chiffres devant moi. Le truc, c'est que c'est un sport qui est très pratiqué par les jeunes. Le problème, c'est quand ils arrivent à l'université, souvent, ils l'arrêtent. Parce qu'ils deviennent des fans, et c'est un peu la culture américaine.
Je crois que pour les filles, c'est le sport numéro un.
Il faut qu'on arrête. Je renvoie au compte Twitter d'Antoine Latran, @culturesoccer, si vous êtes intéressé. Vous, à l'intérieur de Daniel. Daniel va pas s'abonner, Antoine, c'est pas grave. Il y en a d'autres qui vont s'y le faire.
Ces championnats-là, que ce soit le Qatar il y a 10 ans, la Chine un peu après, Arabie Saoudite, les États-Unis, le vrai pas, c'est quand ils recruteront pas des retraités. Le problème, c'est qu'ils ont toujours fait ça pour l'instant.
Quand ils produiront leurs propres joueurs.
Ou leurs propres joueurs, et que, effectivement, ça deviendra des stars, on verra à travers des compétitions internationales.
Mais quand il se passera ça, ce sera trop tard.
Les gars, il faut faire la pub. Il est quand même dommage, Daniel, que tu quittes Antoine Latran sur un désaccord. Le tennis, un point Julien Taxis sur le quart de finale du soir. Rude.
Alors, ça devient bien là.
Holger Rune n'est plus mené que 2-7-1, 6-3 pour le Danois dans la troisième manche. Un match beaucoup plus équilibré. Un Rune bien mieux dans son match, beaucoup moins de fautes, plus précis dans les passings, beaucoup de montées au filet pour Holger Rune qui n'est plus mené que 2-7-1, 1 partout dans la quatrième manche.
Mercato à venir dans l'after tout de suite avant de faire de la géopolitique après 23h et de tout vous dire sur le football en Arabie Saoudite. À tout de suite.
RMC, 22h, minuit, l'after foot.
Gilles Darbribois.
22h38, Daniel Riolo est là, Thibault Leplat est là, point foot et tennis avant le mercato. Rapidement, le score entre la Fiorentina et West Ham en finale de la Conférence Ligue Aurélien.
Un but partout, un quart d'heure encore à jouer, les buteurs Benrahma sur pénalty pour West Ham, Bonaventura à la 66e pour la Fiorentina.
Le tennis, rapido ce score, Julien Rude.
Deux manches à une pour le Norvégien Casper Ruud, il y a 2-1 pour Casper Ruud dans le quatrième set, attention 0-30 sur le service du Danois.
Allez, jingle mercato.
C'est combien ?
30 000.
Elle est bien, j'ai envie de la prendre.
Attends, je vais te la marcher.
Tu l'as fait à combien là ?
J'ai dit 30 000.
Ça vaut 15 000 francs là ?
Non, 30 000.
25 000 ?
Non, 30 000.
Allez, 27 000 avec le tam-tam.
Non, fais-moi 30 000.
Bon, allez, laisse tomber, fais-lui ses 30 000, c'est un con.
L'After lance officiellement un appel à Christian Clavier. Nous voulons ce jingle en version 2023. La première personne qui croise Christian Clavier doit l'enregistrer en version 2023.
Bah, c'est Baptiste, il est en tournage. Baptiste est en tournage avec lui en ce moment.
C'est un message adressé à Baptiste.
Ah, c'est un message pour Baptiste.
Voilà.
Et comment tu veux lui faire ? Il faut qu'il redise les mêmes mots ?
Bah, Baptiste, il peut jouer le vendeur. Par exemple, je crois que je pense ça très bien. Puis quelqu'un qui peut jouer Gérard Jugnot. Il faut le bruit de fond. Et le bruit de fond.
Non, le bruit de fond, c'est pas la peine.
Faut avec la bouche, un bruiteur de bouche.
Bon, ce qu'on va faire, comme il y a beaucoup d'infos mercato, je vais vous les donner globalement. Et s'il y a un truc qui vous intéresse, vous m'arrêtez. D'accord ? Je vais démarrer par Lyon. Lyon s'active en coulisses actuellement parce que déjà il faut trouver des sous. Il y a un passage devant la DNCG dans quelques jours.
Comment ça, il faut trouver des sous? Je croyais qu'ils avaient un nouveau patron plein d'oseille.
Eh oui, monsieur, tu as suivi les infos, tu fais le faux surpris là, mais tu le sais très bien. L'entourage de John Textor explique que les choses vont bouger dans les 10 jours concernant cette question. Et pendant cela, Textor, il bosse avec qui au quotidien? Eh ben, il bosse avec Vincent Ponceau et Bruno Chéroux.
Bien sûr.
Ils sont là, ils ont changé de boss, et ça bosse au quotidien ensemble. Textor veut garder Chéroux, qu'il ménage dans les échanges. Il trouve que les commentaires négatifs à son endroit n'ont pas lieu d'être. Chéroux devrait prendre de la hauteur dans la cellule de recrutement actuelle. Avec, vous avez suivi l'arrivée d'un nouvel acteur, Mathieu Louis-Jean.
C'est son rôle qui n'est pas complètement clair. Parce que dans l'interview de Textor, il disait tu vas en fait t'occuper de la synergie des différents clubs.
Apparemment, c'est pas le cas. Là. Il reste OL. Finalement.
C'est pas si clair que ça parce que Louis-Jean va être le patron du recrutement.
Ah. En gros, ce qui l'intéresse, c'est d'avoir un peu un point de vue large.
Avec Corentin Jean.
Et où Saint-Jean de la 30.
Je précise que son prénom, c'est Mathieu, pas Mathieu Louis. Que Louis-Jean, c'est son nom de famille.
C'est un peu ce que tu dis à celui que t'aimes bien, mais tu voudrais qu'il arrête de faire de l'opérationnel, quoi. Qu'il soit pas trop au contact avec les gens, donc tu lui fais un truc un peu stratégie, sur mesure, conseiller.
Un petit placard, tu veux dire?
Sorte de placard doré, si je puis dire. C'est mieux que le chômage, le placard, quand même.
Certes. En tout cas, au rayon arrivé à Lyon, les dossiers sont globalement freinés. Alors, dans les tuyaux, il y a Amari Traoré, le Rennais, qui est en fin de contrat. Il y a Al Mousrati, milieu défensif de Braga. Il y a un joueur de Bruges également, Clinton Mata. Apparemment, ils sont tous cités. Et puis, il y a un autre problème, c'est le retour de prêt. Il y en a 12. Qui vont revenir, et apparemment on ne veut pas garder grand monde. Hein. Parmi les plus emblématiques, il y a Toko Ekambi, Fèvre, par exemple, qui sont là. Et puis on a appris aujourd'hui que Moussa Dembélé quitte le club. Alors évidemment, ce n'est pas vraiment une nouvelle, hein, parce qu'on savait qu'il attendait d'être en fin de contrat pour se tailler.
Ah oui, il attendait que ça.
Voilà. Donc, ça.
Il voulait croquer la prime à la signature.
Exactement.
On ne va pas lui reprocher.
C'est ce qui se fait de façon très fréquente hein, dans le foot, donc voilà. Au rayon mercato, oui, N'Golo Kanté, donc ça y est, c'est fait, hein, vous l'a dit hier, à l'Ittihad, il rejoint Karim Benzema.
Mais lui, il va prendre une bouchée de pain.
100 millions, la moitié de Karim Benzema.
100 millions en Arabie Saoudite, c'est quoi?
C'est rien. Le taux de conversion, ça fait combien de millions ici, à peine 1 ou 2.
Tu vas sur le marché, t'achètes 2-3 olives, et puis t'as déjà plus rien, quoi.
Sachez que Clermont a annoncé la signature de Bilal Boutoba, jeune attaquant, rappelez-vous, formé à l'OM, qui a brillé à Niort ces derniers temps, et qui donc a signé à Clermont. On le suivra. Ah oui, puis sur Lyon, j'ai oublié de vous partager cette petite déclat quand même de Doucet Maouar, qui a écrit un message aux Lyonnais en disant que voilà, une lettre ouverte, à cœur ouvert au club pour lequel mon cœur bat et battra toujours, dit-il. Il dit, ce départ, j'avais envisagé bien autrement et bien plutôt un vœu que j'avais déjà formulé il y a 3 ans. Donc en gros, il dit, moi ça fait 3 ans que je voulais me casser, mais vous serez dans mon cœur.
Il devait partir dans tous les clubs de la Terre. Il devait partir.
C'est une rougnasse de 3 ans. Quoi.
C'est assez drôle. Il dit, vous serez toujours dans mon cœur. Bon, ça fait 3 ans que je vais me casser, mais je vous adore. C'est bon. Alors, le Real et Dortmund sont tombés d'accord pour le transfert de Jude Bellingham. 100 millions d'euros le transfert quand même. Hein.
100 millions Bellingham, tu vois, on va voir les recrutements qui vont arriver au PSG, mais je n'arrive pas à comprendre. Alors, le Real est bien plus attractif que le PSG, j'entends bien, mais le PSG est toujours obligé de, si c'est 100 millions pour le Real, ça va être 120 minimum pour le PSG, mais ce type de joueur, le PSG devrait être dessus depuis des mois, quoi.
La planification depuis sportive du Real est.
Ça peut monter à 130 avec les bonus.
C'est un exemple, hein. Exactement. Depuis 2-3 saisons, la planification
ça, c'est
sportive.
Typiquement le genre de joueur qui je comprends pas que le PSG soit sportive, même pas dessus.
Il faut que le PSG regarde aussi la planification sportive du Real, parce que alors là, c'est depuis 2 ou 3 saisons, c'est quand même, on n'est pas loin d'une masterclass. Hein. Et à chaque fois, le recrutement, là, tu recrutes cher, mais tu recrutes un joueur qui est disponible tout de suite, qui va performer tout de suite.
Ouvrons le dossier niçois. De nombreux dossiers sur la table des dirigeants, comme on dit. Dossier Thuram, dossier Todibo, les deux joueurs qui ont la plus grosse valeur marchande, qu'est-ce qu'on va faire avec eux? Est-ce qu'ils vont partir ou pas? En tout cas, on estime que s'ils partaient, les deux, réunis, ça pourrait rapporter 90 millions à Nice.
Ce qui est quand même une somme Ligue conséquente. Milliard, quoi. C'est bon, c'est la pensée magique. 90, peut-être pas exagérer.
Alors, Ghisolfi, lui, il dit on veut les garder. Enfin, c'est toujours pareil. Ça dépend des offres que t'as.
Tu
veux toujours tout garder jusqu'à ce que la mallette soit sur la table.
Tu veux le garder, ça veut dire que tu précises quand même qu'il est sur le marché, mais que tu vas pas le lâcher cher, quoi. Tu vas pas le lâcher.
Oui, c'est une stratégie commerciale.
Oui, mais c'est un positionnement de mise sur le marché.
Alors, à Nice, attention aussi aux gardiens. Parce que Boulka, ne veut pas rester doublure, donc il dit moi si je reste deuxième, je veux m'en aller. Et puis Schmeichel, lui, s'il a une possibilité de se barrer, il va pas forcément rester.
À Nice, les choses sont claires. Ils ont appelé Ghisolfi au mois d'octobre, au mois de novembre de l'année dernière. Ils le sortent en milieu de saison, dans un club où son travail est unanimement salué. Il a construit ce groupe qui a progressé depuis qu'il est là et qui a atteint la deuxième place du classement. Donc, si tu as pris Ghisolfi, c'est pour lui donner les clés. Si le gars se rend compte que quand il est sur place, il ne peut pas faire le même travail qu'Alain, s'il ne peut pas construire l'équipe, là, je vois même pas pourquoi quel est l'intérêt pour lui de rester. Donc, je veux croire, si on est allé le chercher de cette façon-là, qu'on va lui donner les clés, que c'est lui qui va construire l'équipe. Donc, il faut s'attendre maintenant, effectivement, à un chamboulement de l'effectif et à ce que la patte Ghisolfi soit totalement imprimée. Ça va aller du nom de l'entraîneur aux joueurs qui vont être recrutés avec un style de jeu.
C'est la tendance. Hein.
Il y est allé pour ça, Ghisolfi. Donc je ne veux pas croire, le connaissant, qu'on lui dicte la marche à suivre. Alors après, c'est pas un mec borné. Si Ineos a deux trois idées et qu'il les trouve bonnes, il y a pas de problème. Mais a priori, donc River va partir, l'entraîneur va partir.
La particularité de Schmeichel, c'est qu'il est en ligne directe avec Radcliffe.
Raison
pour laquelle il est très compliqué à bouger.
Ok, mais a priori, c'est Ghisolfi le patron maintenant. Et c'est là qu'on va voir. Bon, il a commencé avec Mofi cet hiver, qui a un peu été la première grosse recrue niçoise du projet Ghisolfi, je précise. Bah, maintenant, on va voir la suite. C'est là qu'on va juger maintenant.
Exactement. Alors, Brahimi, lui, est invité à se trouver un nouveau club. Et Pépé retourne à Arsenal. Par ailleurs, il était prêté. Alors, il y a pas mal de cas de prêts aussi, de joueurs qui vont. Alors, Ross Barkley, ça dégage. Et puis, parmi les joueurs prêtés, là, tout le monde peut à peu près partir. Le seul qu'on voudrait peut-être garder, c'est Alexis Claude Maurice, apparemment. Voilà. Et puis, Andy Delors ne reviendra pas, puisque Nantes a levé l'option d'achat. Voilà. Lui, il n'est pas passé dans la Ligue 2, celui-là. Non mais ça aurait été la cata quand même, Andy Delors, le scénario. Donc voilà pour Nice. Dans quelques instants, d'autres infos sur le PSG notamment et d'autres clubs de Ligue 1. Le mercato continue dans l'after. À tout de suite.
RMC jusqu'à minuit, l'after foot.
Gilbert Bribois.
22h51, Daniel Riolo est là, Thibaut Leplat est là également. Petit point sur le direct, la finale de la Conference League, Aurélien, Fiorentina, West Ham.
La 89e, un but partout, et c'est peut-être la deuxième plus belle finale de l'histoire de la Conference League. Mais c'est que la deuxième année. Et c'est vraiment pas terrible. Non, c'est pas terrible, c'est hyper tiède, il n'y a pas d'occasion, c'est fermé, il y a eu deux buts, Benrahma sur penalty à la 62e par West Ham et Bonaventura à la 66e. Sinon, match hyper fermé, 5 cartons jaunes distribués, un partout entre la Fiorentina et West Ham. Une minute encore à jouer dans le temps réglementaire.
Le tennis, Rune Rude.
Toujours 2-7-1 pour Casper Ruud dans le dernier quart de finale du tableau masculin.
Il a balle de 4-1 là.
Et balle de 4-1, c'est quasiment, comme on dit, une balle de match pour Casper Ruud qui a repris le dessus dans ce quatrième set.
Le niveau de jeu est vraiment monté d'un cran dans ce quatrième set. Très gros match maintenant là.
Très bien. Tu nous fais un point tout à l'heure, Julien. Le mercato continue. Actu, info PSG. Alors, il y a des choses qu'on vous a déjà dit hier, mais que Fabrice Hawkins, notre enquêteur en chef sur le PSG, confirme aujourd'hui. La liste des joueurs que l'on veut absolument faire partir. Carlos Soler, au revoir. Apparemment, il va retourner en Espagne.
Normal.
Georges Mendes va aider dans ce dossier.
Bien sûr. Il a aidé pour le faire venir, il peut l'aider pour faire partir.
Voilà. Il peut aider lui de toute façon.
Tant qu'il peut donner un petit coup de main, il donne une facture.
But de West Ham, but de West Ham, Aurélien.
Et la course folle de David Moyes, l'entraîneur expérimenté de West Ham, le but de Jarrod Bowen, l'attaquant international anglais qui est parfaitement lancé dans la profondeur. Il y aura peut-être une assistance vidéo pour vérifier le hors-jeu ou pas, mais a priori il ne l'est pas. Et Bowen qui vient battre Terracciano, le gardien italien, face à face. On est passé dans le temps additionnel. On n'a pas encore le temps additionnel. Et il y a Vincenzo Italiano, l'entraîneur de la Fiorentina, qui est fou furieux évidemment, parce que là ça joue à vraiment pas grand chose. Et ça ferait 2-1 pour West Ham dans le temps additionnel, peut-être la première Coupe d'Europe depuis des décennies pour le club anglais. Et a priori il n'y a pas de hors-jeu. C'est le pauvre capitaine Cristiano Biraghi de la Fiorentina qui couvre Jarrod Bowen. Biraghi qui joue en plus avec un gros pansement violet sur la tête, parce qu'il a pris un gobelet en plastique sur la tête. Il a saigné en première
première mi-temps, mais il s'est relevé, il a pas chouiné, le match a repris. Et c'est peut-être lui qui couvre Jarrod Bowen, bien lancé par Lucas Paqueta. Donc 2-1 pour West Ham. Il va rester 3-4 minutes à
très
peine.
Très belle passe de Paqueta
aux Italiens. Ouais, elle est magnifique, la passe du Brésilien. Il va donc rester 3-4 minutes aux Italiens pour peut-être revenir dans cette partie. D'ailleurs, la Fiorentina, qui est le seul club en Europe à avoir participé à la finale de C1, de C2, de C3 et de C4. Mais il n'y aura peut-être pas de victoire ce soir.
À tout à l'heure. Je reviens au PSG. Renato Sanchez également, déception. Si tu peux partir, vas-y, fais ton savoir. Hugo Ekitike en a parlé hier, confirmation aujourd'hui. Il y a les retours de prêt. Alors, Icardi, Paredes, rappelez-vous quand même qu'ils sont sous contrat avec le PSG. Mais alors, on se dit, tiens, on peut peut-être utiliser ces gars-là dans des deals, voyez, comme monnaie d'échange dans certains transferts.
Bien sûr.
Genre, je te file Paredes plus
Icardi gratuit.
Icardi gratos.
Ça se fait, tu mets un joueur dans le panier.
Les goodies, quoi. C'est
voilà.
Les goodies.
Tu mets dans un panier en bas. Voilà. Non, les goodies, c'est justement le hoodies plutôt de Digard.
Alors, ensuite, gros dossier.
C'est partir avec.
Bon, le dossier Neymar, on le connaît globalement. On sait qu'il y a des touches en Angleterre et tout. Les deux trucs importants aujourd'hui, c'est Verratti. Verratti, où la tendance est plutôt à ce qu'il reste. Tendance forte, nous dit Fabrice Hawkins ce soir.
Sauf si, parce que effectivement son contrat rend la chose compliquée, sauf s'il est dans un deal avec un joueur qui vient dans un club et où on fait le coup du panier repas dont tu viens de parler.
Ah.
Argent plus Verratti contre un joueur qui viendrait d'un autre club, un truc comme ça. Dans ce cas-là, ça pourrait.
Et puis un autre cas, c'est celui d'Hakimi. Alors je sais pas si c'est le fait qu'il soit mis en examen par ailleurs dans une affaire de viol, hein, viol qu'il nie, mais bon, le club serait pas fermé à ce qu'il s'en aille et à le revendre.
De toute façon, hier je vous ai parlé d'un grand chamboulement d'effectifs, on veut passer à autre chose, donc les gars qui ont déçu, on va les pousser dehors. Mais la vraie victoire, ce serait de réussir à se séparer de Neymar, parce que là tu pourrais réellement, enfin n'oublions pas quand même que Neymar est là depuis 2018, hein. Ouais. Messi, les deux dernières années, Neymar, le vrai point noir, ça a été dans le vestiaire, la gestion de ses vedettes, qui ont fait en sorte que le club ne puisse pas bien travailler, que les horaires d'entraînement changent au gré des volontés des uns et des autres. C'est-à-dire, si un nouvel entraîneur doit arriver, il faut qu'il ait la main complètement sur ce vestiaire. Le départ de Messi, c'est une première bonne nouvelle. Le départ de Neymar, de ce point de vue-là, ce sera une excellente nouvelle. Parce que le vestiaire, tu vas enlever un vrai problème du vestiaire quand même. Hein.
Ah donc oui, bah, si t'enlèves la tumeur, quoi.
Voilà, si à côté de ça, tu changes un peu l'effectif qui a besoin d'être régénéré et avec enfin des joueurs un peu à la hauteur et qui ne seront pas traumatisés dès qu'ils vont arriver par les anciens cadres qui tenaient un peu tout. Bah, donc c'était Neymar, Verratti, Marquinhos qui osaient rien dire. Hein, parce que Marquinhos, il faut quand même dire que d'un point de vue du caractère, c'est vraiment un faiblard. Hein. C'est un faiblard. Marquinhos, il n'a pas le profil pour être capitaine. Oui, mais là, le rôle de l'entraîneur qui va être nommé, ça va être, avec beaucoup de diplomatie, de bienveillance et de gentillesse, de lui faire comprendre qu'il faut qu'il lâche le brassard, qu'il le donne à Kylian et qu'il le prenne pas mal.
Un petit info, Guendouzi, il était tout à l'heure dans Rotten sans flamme, Matteo Guendouzi, il a expliqué, il a dit, moi, j'ai pas encore parlé de la saison prochaine, j'attends de savoir si le nouveau coach va compter sur moi. Donc ça veut dire qu'en gros, bon, là, il dit pas, je veux partir tout de suite, quoi. S'il attend le nouveau coach,
s'il y a une offre, ils le pousseront quand même dehors.
Il y a une incertitude quand même.
Bah, il fait partie des valeurs, les plus intéressantes.
Il a aussi expliqué qu'il s'entendait mieux avec le football de Sampaoli qu'avec le football de Tudor. Ouais.
Je pense que s'il met le nez dehors dans la foulée, Longoria change la serrure exprès, hein, pour pas qu'il revienne.
Bon, c'est un joueur que ce qui s'y joue peu. S'il n'est pas en symbiose avec l'entraîneur, il devient très difficilement gérable.
Ah mais caractère, exactement.
Parce que désir de réussite très fort.
Oh, attends,
il est très dur à gérer. Hein.
Fin de saison, il était sur le banc. Tu l'as pas entendu.
Dans le vestiaire, c'était un problème.
Ça faisait quand même la gueule.
Dans le vestiaire, c'était un vrai problème.
Et puis Eric Roy a prolongé à Brest. Il reste à Brest.
Bonne nouvelle pour lui. Je pense que c'est ce dont il avait envie.
Exactement. Contrat jusqu'en 2025. Voilà pour l'info mercato. Vous retrouvez tout ça sur rmcsport.fr. On va peut-être faire les dernières secondes de la finale de la Conference League entre la Fiorentina et West Ham, Aurélien.
96e minute, il y avait 5 minutes de temps additionnel. La Fiorentina est menée 2-1 par West Ham. Évidemment, tous les Anglais demandent la fin du match. Les derniers centres dans la surface de réparation. Antonin Barak, le Tchèque qui est placé par le Slavia Prague et qui connaît parfaitement l'Eden Arena, rate le ballon. C'est relancé par Vladimir Koufal. Autre Tchèque, mais de West Ham, Lucas Paqueta qui vient s'arracher avec Pablo Fornals qui demande au public anglais de mettre un peu plus la pression. Ça fait 43 ans que West Ham n'a pas remporté le moindre trophée. C'était une cup en 1980. Et là, ils vont probablement remporter la deuxième édition de la Conference League. Arthur Cabral, l'attaquant brésilien de la Fiorentina, qui a marqué énormément cette année. 8 buts en Ligue Europa Conference. Il va perdre le ballon. C'est relancé par les joueurs de West Ham, tout de blanc vêtu. Il n'y a pas de sponsor sur leur maillot. Peut-être pour un maillot qui va rester dans la légende du côté des Hammers. Ce long ballon vers Lucas Paqueta et Pablo Fornals, justement à la lutte avec Sofiane Amrabat.
C'est fini, c'est fini.
Et la faute du Marocain, effectivement, les secondes qui vont s'égrener, c'est la 96e minute et 12 secondes. Maxwell Cornet, Cresswell, les remplaçants de West Ham ont retiré leur veste, peut-être pour fêter ce titre dans les prochaines secondes. Et Vincenzo Italiano commence à baisser la tête parce que là, il y aura un coup franc pour West Ham à venir. Et West Ham mène 2-1 face à la Fiorentina. C'est la 97e minute. On rappelle que le deuxième but, peut-être le but vainqueur de West Ham, a été marqué par Jarrod Bowen à la 91e, parfaitement lancé par Lucas Paqueta, l'ancien Lyonnais, et Bowen qui a gagné son duel face à Terracciano. Un seul hammer dans la surface de réparation, monsieur Del Cerro Grande, l'arbitre espagnol, qui fait mine de regarder sa montre, évidemment pour dire qu'il avait compris que les joueurs anglais prenaient leur temps. Il y aura peut-être une dernière cartouche avec Terracciano qui récupère le coup franc très mal joué et il va la laisser à Terracciano, dégager loin devant. Il y a la tête d'Arthur Cabral, c'est la tête de Naïef Aguerd, le défenseur marocain de West Ham, qui relance vers ses attaquants. La balle en retrait de nouveau vers le gardien italien. Ça fait 98 minutes désormais qu'on joue, toujours 2-1 pour West Ham face à la Fiorentina dans cette deuxième édition de la Ligue Europa Conference. Monsieur Del Cerro Grande, l'arbitre espagnol, qui laisse jouer. Pablo Fornals va dégager, mettre un grand coup dans le buffet d'un milieu de la Fiorentina.
Il donne ce coup franc là.
Et il va donner ce coup franc à monsieur Del Cerro Grande.
On peut aller dans la surface s'il est bien tiré.
Ouais, ça fait 3 minutes en plus donné par rapport au temps additionnel initial, mais le but de West Ham forcément va donner encore du temps aux Italiens pour y croire encore un petit peu. La Fiorentina avec ce coup franc de la droite vers la gauche, quasiment collé à la ligne de touche à droite. Giacomo Bonaventura, le gardien, qui va monter. Terracciano, Bonaventura qui va mettre un long ballon au deuxième poteau de la surface de réparation.
Oh là, il passe au travers.
Il passe au travers, Daniel, mais il va passer au travers sans toucher du tout le ballon et ça va partir en sortie de but. Forcément, les joueurs de la Fiorentina sont agacés. C'est terminé, la victoire d'un club anglais, West Ham, vainqueur de la Ligue Europa Conference, le 14e de Première Ligue, verra quand même l'Europe l'année prochaine, qualifié en Ligue Europa et donc dans l'histoire des Hammers. Ça fait 43 ans qu'ils n'ont pas remporté de titre, c'était une cup en 1980. Les buteurs du bonheur, les buteurs de légende seront Saïd Benrahma à la 62e sur pénalty, l'Algérien, et surtout Jarrod Bowen à la 91e qui offre ce titre, la C4 à West Ham.
Merci Aurélien. Tout à l'heure, on aura Johan Crochet et Julien Laurence pour nous dire ce qu'ils ont pensé de ce match. Pour l'instant, on est sur deux clubs italiens qui perdent.
Ils en avaient mis trois en finale, ça pourrait être bien trois défaites quand même.
Oui, c'est en effet. Allez, dans quelques instants, l'Arabie Saoudite, leur stratégie. Saïd Benrahma qui est quand même passé par Nice, Angers et par l'US Colomiers, hein, je le signale. Lui qui a marqué ce soir en finale de Coupe d'Europe.
Allez. Avec 5 joueurs passés en Ligue 1 qui ont gagné une Coupe d'Europe ce soir.
Exactement. Arabie Saoudite au programme, le chantage de la Juve, de l'UEFA sur la Juve, plus le rachat de Manchester United. Voilà le programme de leur avenir dans l'After. À tout de suite.
RMC, l'After Foot.